Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps qui explore les changements de la vie d'une génération à l'autre. C'est déjà notre 69e émission et vous me pardonnerez, je l'espère, cette grivoiserie, mais c'est le chiffre idéal pour cet entretien avec celle qui fut le sex-symbole de toute une génération avec le film Valérie. Oui, nous recevons avec grand bonheur aujourd'hui Danielle Ouimet pour parler de l'évolution de la vision de la beauté, de l'érotisme au fil du temps, mais tellement d'autres sujets car Danielle a eu une prolifique carrière dans les différents médias en tant qu'artiste multidisciplinaire. Le film Valérie a marqué l'imaginaire de toute une génération, autant ici que dans les 60 pays où le film a été diffusé. Il semble même qu'on lui ait bridé les yeux sur une affiche en Chine, c'est vous dire. Mais Danielle, c'est tellement plus que Valérie. Artiste multidisciplinaire, elle a pratiquement touché toutes les facettes du show business en plus du cinéma. Radio, télévision, théâtre, chansons, peinture, et ce depuis plus de 55 ans. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos auditeurs de CKVL, une antenne où Danielle Ouimet a aussi animé. J'étais curieuse de discuter avec Danielle Ouimet de l'évolution de la beauté au fil du temps, de revisiter des projets auxquels elle a participé qui sont toujours en onde, comme la poule aux œufs d'or ou le bye-bye. J'aimerais aussi parler de l'expérience, est-ce qu'on la valorise autant aujourd'hui qu'avant, et connaître sa perception des jeunes d'aujourd'hui. En deuxième partie, nous recevons celui dont vous connaissez le nom, parce que je le prononce toutes les semaines, et aujourd'hui, vous entendrez sa voix et les propos éclairants que j'attends de lui à titre de mentor. Oui, c'est le grand Manitou de Canal M, notre chef d'antenne Louis Garon. Depuis des années, comme Louis forme la relève, j'avais envie de l'entendre sur sa vision des nouvelles générations, sur l'évolution de la radio et sur l'expérience des plus âgés. Pour le moment, accueillons en studio, car oui, elle est là avec nous, Danielle Ouimet, précédée d'une chanson de Robert Charlebois qui fait honneur au concours de beauté de l'époque, Miss Pepsi.
Je cours les concours, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça m'a rien donné. Depuis l'âge de 7 ans, elle a ça dans le sang. Elle a étudié le chant, le piano, la claquette, la diction, le ballet chez Madame Audet. Elle en faisait tellement un vrai petit chien. Je cours les concours, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça m'a rien donné. Elle a été Miss Onsic, Mademoiselle Club Natic, Miss Hospitalité, Miss Personnalité, du carnaval, couronnée Miss Laval, élue Miss Cinéma, presque Miss Canada.
J'cours les concours, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça m'a rien donné.
Elle pratique tous les sports, caractère en or. Elle est bon cordon bleu. Elle a été hôtesse aux deux. Elle est parfaite bilingue. A fait tout son linge elle-même. Elle est très distinguée.
C'était Miss Pepsi de Robert Charlebois, où on explore un peu tout l'univers des concours de beauté. C'est l'un des sujets dont je vais m'entretenir avec notre invité qui est en studio, Daniel Ouimet.
Bonjour!
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 Probablement que nos auditeurs plus âgés seront très heureux de vous retrouver. On parle évidemment de cette performance époustouflante dans Valérie, mais vous êtes tellement plus que Valérie, vous êtes Daniel.
Que c'est gentil. J'allais dire les jeunes aussi, mais ceux qui me connaissent à 30 ans, enfin, ben moi, je suis très surpris d'ailleurs, très surprise à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a un certain âge plus jeune, et puis un gars ou une fille, mm-hmm. qui me rencontre qui sont beaucoup plus jeunes et qui me reconnaissent, mais ils me disent « Ah, oh, mon père m'a tellement parlé de vous! » Je comprends tout à ce moment-là. Et vous avez grandi avec nous dans le salon. Alors bon, je comprends ce moment-là.
Oui.
Ouais. Mais c'est ça. C'est le fun de durer à travers une autre génération aussi, une génération montante et l'ancienne qui elle se souvient. C'est le fun.
Oui, absolument. Puis vous êtes tellement réinventé dans toutes sortes de médias au fil du temps. On parlait avant que la musique commence, autant la télé, la radio, les arts plastiques aussi, la peinture.
Exact, exact. Mais ça, je l'ai toujours eu. Ma mère était une femme qui probablement... Elle était très avant-gardiste. Ma mère, j'ai trouvé des photos d'elle où elle faisait du ski. Je vous parle de ça, de 60-70 ans. Là. Mm-hmm. Elle allait faire du ski dans les... effectivement, moi, j'ai été une fille qui a fait du ski toute ma vie. Mais je ne savais pas que ma mère avait fait du ski. Mm-hmm. Je le découvre en voyant des photos. Ma mère m'a déjà raconté qu'elle a déjà été chanteuse aussi à un moment donné. Puis, elle a arrêté sa carrière, soi-disant. Enfin, son essai, sa tentative.
Oui.
Parce que à l'époque, il y avait des rouleaux pour faire des décors en arrière. On descendait le rouleau, mm-hmm. bon, et sauf que le rouleau lui est tombé sur la tête. Sa première carrière, elle a perdu connaissance sur scène. Bon, OK.
C'est une entrée remarquée.
Et finalement, elle s'est mariée à 30 ans, ce qui était très rare à l'époque. 30 ans, et puis elle avait son salon de coiffure, donc elle était déjà une femme accomplie, qui avait un métier. Et mon grand-père a été, vous savez probablement de mon grand-père, Bruno, mon grand-père avait déjà une voiture, une des premières voitures dans les cantons de l'Est, et elle conduisait. Alors, ma mère, en se mariant à un homme qui était quand même assez merveilleux, qui était militaire, merci pour le jour du souvenir, et par contre, elle lui a fait 4 enfants, donc voilà, le résultat, c'est que la première est arrivée, qui est moi, et puis elle m'a donné la vie qu'elle aurait voulu continuer. Mm-hmm. Alors, elle m'a envoyée aux Beaux-Arts. Moi, à 10 ans, je prenais l'autobus seule. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Là. Et je faisais une heure d'autobus pour me rendre dans le centre-ville pour aller prendre des cours à l'École des Beaux-Arts. Et puis, il y avait le ballet à mon collège, le Collège Marie de France. J'avais du ballet, j'avais du chant, j'avais des cours de chant privés. Elle m'a donné des cours d'anglais parce que qu'aujourd'hui, on crie tout le temps sous l'anglais. Je m'excuse. Moi, si je pouvais parler italien et espagnol, j'ai des notions d'espagnol. Et ma petite fille est italienne. Enfin, du moins, sa mère est italienne, donc elle parle italien à 12 ans. Ben, je m'excuse. C'est une culture avant même de parler l'anglais qu'il faut bannir. Non! Il faut vraiment élargir ses idées là-dessus. Alors, finalement, qu'est-ce que vous voulez?
C'est un bel hommage intergénérationnel qu'elle vous a légué, de ne pas nécessairement avoir fait sa carrière, mais de vous avoir tout donné pour que vous puissiez, en fait, fleurir dans ce bagage que vous avez
offert. Exact,
exact. Et là, vous parlez de coiffure. J'étais curieuse de vous entendre sur la notion de l'évolution de la beauté, parce que la chanson qui était la pièce d'introduction, Miss Pepsi, parle des concours de beauté. Et j'ai lu que vous avez été Miss Province du Québec.
Oui, Miss Province du Québec en 67. En fait, en 66, mais il disait 67 à l'époque. Mm-hmm. Et en fait, c'est parce que j'étais... Bon, la première fois que j'ai fait de la télévision, c'était dans un concours aussi, ça s'appelait La Jeunesse idéale. J'avais 16 ans. C'était La Jeunesse d'aujourd'hui, donc à l'intérieur de l'émission, avec Pierre Lalonde. Et c'était pour préconiser l'éducation justement qu'on faisait aux jeunes, l'extension extrascolaire. Oui. Et puis, je devais arriver avec des diplômes. Et c'est Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse qui cherchaient justement la jeunesse idéale, c'est-à-dire ces jeunes qui pouvaient avoir des études plus poussées mm-hmm. et dans d'autres domaines. Et donc, j'ai participé à ce concours-là, mais c'est même pas moi, c'est ma cousine qui m'y avait inscrite. Mais ça m'a fait arriver à la télévision dans le studio de... À l'époque, c'était le Canal 10, oui. qui est aujourd'hui TVA. Mais, et puis, quand je suis arrivée en studio, à 16 ans, j'ai dit « Oh, c'est ça que je veux faire ».
Ça a été un déclic.
Automatique. Mais je demande à Pierre Lalonde comment je pourrais faire pour faire de la télévision. Il me dit « Oublie ça, si t'es pas la blonde de, la femme de, tu y arriveras jamais ». Là, j'avais envie de dire « Bien, moi, je peux être ta blonde ». Il était tellement beau. Mais remarquez, je l'ai
la
été.
La blonde à la longue.
Mais c'était pas à l'époque dans une émission où on pouvait introduire quelqu'un comme une femme pour faire des interviews.
Mais donc, ça dit, a été par les concours de beauté.
C'est, là, non, attendez. Non. Là, il m'a dit, la seule façon, Daniel, ce serait d'entrer comme mannequin dans une agence mm-hmm. de mannequins parce qu'on fait passer des auditions aux mannequins oui. pour la télévision, pour être lire un... Faire une, comme à la poule aux œufs d'or, la personne oui. qui lit le nom, qui lisait le nom, qui introduisait les participants à telle et telle émission. À Yves Christian, d'ailleurs, ils viennent de décéder, malheureusement, mais j'étais à Yves Christian, une des premières émissions, où, quand il y avait des invités, c'est moi qui les présentais à l'écran.
Donc, c'était l'école de Madame Bédard, c'est ça, Hélène Bédard?
Je suis allée oui. chez Hélène Bédard pour devenir mannequin, mm-hmm. mais au troisième cours, Hélène m'a dit, oh, écoutez, mademoiselle Wilmet, c'est visible que vous voulez pas devenir mannequin, mais c'est vrai qu'il faut 10 cours pour accéder à mon agence pour vous envoyer faire des auditions. Parce que c'était ça que je lui avais dit que je voulais faire. Ben, elle dit, ce que je vais faire, je vais vous donner le mardi le cours. Le mercredi, vous allez le donner. Alors, je suis devenue professeure mannequin à 17 ans. Et je vous accepte dans mon agence tout de suite. Et c'est là que j'ai commencé à passer des auditions. Mm-hmm. Pour aller à la télévision, et j'ai fait la poule aux œufs d'or, entre autres, les premières émissions de la poule aux œufs d'or. Et en partant de ça, elle m'a dit, écoute, pour la promotion de mon agence, il faudrait que tu ailles dans des concours de beauté parce qu'on va te présenter comme étant quelqu'un de mon agence, le mannequin et professeur mannequin à l'agence. Alors, j'ai dit, OK, bah, pourquoi pas. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Miss Province de Québec, que j'ai gagné mm-hmm. en l'espace de 3 semaines, le temps de m'inscrire, déjà, c'était fait. J'ai gagné. C'était la première fois où Mireille Mathieu venait au Québec, d'ailleurs.
Ah oui, c'est un beau souvenir.
Et la chose la plus surprenante, et c'est là où on se rejoint, mademoiselle mmh. ou madame, je sais pas, c'est que y avait dans ce concours-là des cadeaux, et un des cadeaux, c'était un 13 semaines à la radio de CJMS. Moi, je n'avais jamais fait de radio. Et alors, quand je me suis présentée à CJMS en me disant, mais voyons donc, qu'est-ce que je vais faire là? Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes capable de faire des rapports de circulation? Et j'ai dit oui. Alors là, je vais encore vous faire rire. Parce que là, ils n'utilisaient pas mon nom. Ils m'appelaient l'agent secret 1280. Pourquoi l'agent 1280? Encore une fois, je vous dis, moi, j'ai une vie pas bien spéciale.
Pas banale, non. J'ai lu ça dans votre livre. C'est passionnant.
C'est que... Il m'enfermait dans un petit studio. J'avais comme mission d'écouter CJD qui avait un hélicoptère. Mm-hmm. Et quand j'entendais les rapports de circulation donnés par CJD, ils payaient eux autres l'hélicoptère. Mm-hmm. J'écoutais ça en anglais, je traduisais ça en français, je pesais sur le bouton, puis je disais « Passez-moi vite! » Sans ça, ils vont s'apercevoir qu'on les a copiés. Et je donnais à la radio les rapports de circulation qui m'avaient été donnés par CJM. CJD.
Oui.
Alors, voilà, c'est comme ça que je... Alors, j'étais l'agent secret 1280 parce qu'ils ne voulaient pas... Ils se disaient « Elle est allée faire des recherches souterraines.
Donc, pour accéder à ce métier, il fallait vraiment passer par des étapes, on va dire, très féminines dans le constat qu'on peut en faire. Donc, comment vous pensez que ça se passe à cette époque, à notre époque maintenant? Est-ce qu'on demande encore autant au niveau de la beauté des femmes?
Bien sûr, la beauté aura toujours sa place. La beauté aura toujours sa place, mais j'ai constaté que on demande beaucoup plus aux femmes qui sont belles qu'aux femmes qui sont moins gâtées par la vie. Une femme qui est moins gâtée par la vie, on va lui dire, oh, ben, elle a un beau, elle a des beaux, elle a des beaux diplômes, elle a, mm-hmm. elle a beaucoup de, d'expérience dans tel domaine. Tandis qu'à une femme qui est belle, on va l'écouter en disant, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est juste sa beauté qui l'a fait installer là? Et quand elle a les deux, c'est-à-dire les trophées et, mm-hmm. et la beauté, oh, elle a intérêt à être, comme j'utilisais un terme très anglais, sharp. Elle a ouais. intérêt à être très,
elle
très,
est plus
très vivante,
plus surveillée.
Ouais. Elle a demandé, et donc, oui, ça aura toujours sa place. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais d'ailleurs, c'est une étude qui a été faite chez les enfants. Un enfant, d'une façon spontanée, regarde des visages et on ne lui a pas appris la beauté à un enfant. Mm. Mais quand c'est beau, il y a une espèce de magie, il y a une espèce de triangulation qui est parfaite, il va sourire. Tandis que quand quelqu'un est un peu plus ingrat, un visage un peu plus ingrat, il va se questionner. Dans ses yeux, il va se questionner. Donc, c'est un élan qu'on a vers la beauté. Tout le monde, c'est interne, c'est intérieur, devrais-je dire. Et donc, ça va toujours exister. Mais maintenant, c'est ce qu'on en fait qui est le plus important.
Absolument. On va aller un petit pont musical pour ouais. continuer notre entretien
Parfait.
Tout de suite après.
Hier soir, en me quittant, babou, tu n'étais pas content. Babou, babou, tu m'as reproché de savoir chanter, toi qui rêvais à l'école d'épouser une idole pour me faire pardonner. Babou, babou, pour toi j'ai composé cet air-là. Voilà, 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 chanson.
Nous sommes allés chercher quelques archives pour rendre honneur à notre invité. Alors, Daniel, introduisez-nous cette belle chanson.
Ben, c'est assez abusant parce que je parlais de Michel Page, qui est un ami à moi que j'ai connu à l'époque, justement, à CJMS.
Mm-hmm.
Et c'est les premières interviews qu'on m'a fait faire, c'est avec lui qu'on me les a fait faire. Et je l'ai rencontré là et lui a décidé de me faire chanter. Et j'ai fait plusieurs...
Dans le sens premier du terme,
oui,
et non
oui,
le deuxième.
Oui, oui. En effet, ben oui, mais lui-même était chanteur.
Oui.
Et donc, j'ai décidé de chanter avec lui. Puis après ça, ben, ça m'a servi parce que je donnais des spectacles chez Clairette à l'époque, avec Michel Girouard, qui lui aussi est décédé. Ils s'en vont tous, ça n'a pas de bon sens. Et je chantais chez Clairette et finalement, Dominique Michel m'a fait travailler aussi. Il fallait chanter dans les bye-bye, sur scène, etc. Donc, j'ai décidé de m'y adonner un peu plus sérieusement. Et Stéphane Venn est arrivé, qui sortait avec ma sœur. Okay. Ça aide. Et ceci dit, à partir de ce moment-là, il m'a fait faire plusieurs disques et j'adorais ça. J'en ai 6 ou 7. C'était très amusant. Ben, à l'époque, on rentrait en studio le matin et puis d'une semaine après, le disque était sur la table tournante. Là. C'était automatique. Et je devais faire d'ailleurs un disque, on appelait ça un long jeu à l'époque.
Oui.
Il y avait des 33 tours. Mm. Il y a les 45 et les 33. Et je devais faire un disque de chansons érotiques avec des auteurs. Écoute, c'était incroyable ceux qui s'étaient approchés pour me... Jean-Pierre Ferland m'avait fait...
Est-ce que c'était dans la foulée de Valérie?
Oui, oui, c'était dans la foulée, bien sûr, de Valérie, bien sûr. Tout le monde en a profité. Tout le monde en a profité. Puis c'était à partir du moment où ce film-là est sorti, c'est sûr qu'on m'a beaucoup attaqué, décrié. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de se mettre tout nu. Mais je savais qu'avec le temps, tranquillement...
Vous avez réussi à faire tellement autre chose.
Je savais que ça allait être plus dur parce que quand tu prends cette direction-là, d'enlever l'image, c'est très... Ça prenait du temps. Prenait du temps. Même encore aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui se rappellent de cette époque et qui me traitent comme à l'époque. Puis il y en a d'autres, surtout les femmes, c'est assez bizarre. Les femmes ont compris, les hommes un peu moins.
Les gens qui sont restés pris dans le temps. Ouais. Vous avez évoqué la poule aux œufs d'or et le bye-bye aussi. J'étais curieuse de vous entendre au moment où vous avez participé à ces productions-là et maintenant. Qu'est-ce que vous observez comme différence?
Ah, mon Dieu! Est-ce qu'on a 3 jours?
À peu près 6 minutes, je pense.
C'est la volonté de se démarquer aujourd'hui et de ne plus avoir le talent de savoir où s'arrêter. Et c'est à savoir celui qui serait le plus ordurier les 3/4 du temps, celui qui serait le plus frappé fort, sans penser... à l'autre, sans penser aux conséquences, sans penser que ça va... Tout le monde va... Oui, bien sûr, on va rire d'une chose comme telle qu'elle. On va autant rire du succès et du courage qu'il a fallu faire. Enfin, courage, c'est même plus du courage, mais de l'idée de l'avoir fait que de la joke elle-même, du produit final lui-même. On fait plus ça tellement pour faire rire d'une façon... bien sûr, efficace. C'est sûr, je dis une grossièreté, tout le monde va rire, tout le monde va se cacher pour le dire. Peut-être qu'ils ils vont le dire, mais en famille, mais ils ne le diront pas en public. Et cet effet-là, alors que ce serait tellement plus intéressant, plus amusant de trouver une façon de rire de certains sujets, surtout la politique, parce que les gens sont vraiment...
Mais en même temps, à l'inverse, on dit qu'on ne peut plus rire de rien maintenant.
Oui, les jeunes sont... Ben, je pense que c'est peut-être l'abus. Peut-être que c'est l'abus, mais...
Comme un retour de balancier, peut-être?
Les gens sont devenus paresseux, tu sais. Les gens sont devenus paresseux.
Vous constatez d'y aller dans une certaine forme de facilité?
Oui, certainement. On sont paresseux. Tu sais, on parlait de la chanson. Je disais tout à l'heure que les auteurs d'aujourd'hui, oui, il y en a de très, très bons, c'est sûr. Mais, écoute, si ça rime, là, c'est correct. L'amour au bout du chemin, puis c'est toujours la lumière, et je vais vers toi.
Mais en même temps, le fait qu'il y a, tu sais, à l'époque, il y avait quand même justement le Canal 10, Radio-Canada, il y avait moins d'antennes. Là, maintenant, il y a tellement d'antennes disponibles. Est-ce que ça se peut que c'était peut-être trié plus sur le volet quand il y avait moins d'antennes qui pouvaient diffuser?
Là-bas, c'était carrément... Et on ne s'en cachait pas, c'était le côté intellectuel et populiste.
Oui, oh, oui, c'était très dichotomique.
Ça. Exactement. Mm-hmm. Si tu allais d'un côté, tu avais bien de la misère à aller de l'autre. Et j'ai commencé, chose assez surprenante, à Radio-Canada. J'étais plutôt un produit de Radio-Canada. Puis à un moment donné, avec le film, tout est arrivé d'une façon beaucoup plus adéquate.
Ça vous a changé de l'autre côté.
Ça m'a propulsé de l'autre bord.
Ouais.
Mais il fallait que je... Mais j'ai toujours été très ouverte à essayer de gagner ma vie dans tous les domaines.
Mm-hmm.
Autant dans le dramatique que le comique. J'ai beaucoup plus été, à cause de Dominique Michel, qui mm-hmm. venait me chercher très souvent, je suis beaucoup plus allée vers le comique que le dramatique. J'ai fait 17 films. Les gens disent, ah oh, oui, elle a fait Valérie l'initiation, puis après ça, ils s'arrêtent. Et il y en a... Non, j'ai trois mm-hmm. films qui sont des films cultes. Sur lui, Le Rouge aux Lèvres, qui est un film que j'ai fait en Belgique, se promène partout au monde et je mm-hmm. réponds à des universités qui sont partout au monde dans ce domaine-là, dans le domaine du fantastique. J'ai fait plusieurs films qui sont devenus des films cultes, mais les gens ne le savent pas. Mais je m'en fous. Demain, c'est un autre jour. J'ai encore des choses à faire.
Ben justement, demain, c'est un autre jour et nous sommes à l'époque de notre émission. Nous allons aller au deuxième bloc.
Bien sûr, avec plaisir.
Et j'ai envie de vous dire, Daniel, on a tellement abordé toutes sortes de sujets. J'avais plein d'autres questions, entre autres, qui portent sur l'évolution de notre rôle de mentor en vieillissant. Ouais. Comment peut-être on est moins sous le feu de la rampe, mais on se transforme peut-être plus en mentor, en enseignant. Et tout de suite, après la pause, je reçois notre chef d'antenne ici à Canalem. Alors, je me demandais si vous aviez envie de rester avec nous.
Avec le plus grand des plaisirs.
Ah ben, c'est bien. Donc, d'ici un peu, nous allons recevoir Louis Garon, le chef d'antenne de Canalem.
Le temps qu'il s'installe, là, il va s'installer derrière le micro, puis on va discuter.
Puis je rappelle que si vous avez envie d'écouter nos autres épisodes, nous sommes sur canalem.vusezvoix.com ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion Spotify, Apple Balado, Google Podcast. À tout de suite!
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
De retour en studio avec Daniel Ouimet, que nous avons décidé de garder avec nous parce qu'on avait envie de prolonger la conversation. Et avec toute son expérience au fil du temps, on se disait qu'elle aurait certainement un avis sur l'évolution là, justement des médias au fil des années. Et ça tombe bien, nous recevons notre grand Manitou ici à Canal M, Louis Garon, dont vous entendez le nom parce que je le remercie chaque semaine. Et tout d'abord, avant que de laisser le temps à Louis de s'installer, nous allons écouter une pièce musicale d'Alain Souchon qui décrit bien un petit peu là, l'évolution de quand on est sous les radars et tout à coup, on passe à une autre étape. Elle est un peu sarcastique, cette chanson, mais en même temps plein de tendresse. Alors, « Quand je serai KO ».
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down quand je serai KO descendu des plateaux de phono poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai dans les souvenirs, les albums. Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more. The old dancing music sound all day long in my gown. When I will be down. Pour une déprime qu'a du bol. Plus les folles griffonnant je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain. Sans clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite. Cette petite mort. I'll be down no more. The old dancing music sound all day long in my gown. When
quand je serai KO. Du grand Alain Souchon.
Je me posais la question, parce que c'est vrai, est-ce que tu m'aimeras encore? Voyez-vous, ça lâche pas. Hein?
Ah, c'est toujours
faut se faire
ça.
Aimer.
C'est toujours ça.
Par n'importe qui, mais il faut se faire aimer.
Oui. Là, il y a quelqu'un qui se fait aimer et parfois peut-être détester, mais c'est
Arrête
pour notre bien.
Ah, vraiment? Il doit être dur, alors.
Non, en fait, il est juste. Ouais. Et je vais vous le présenter. C'est le grand Manitou de la station. À chaque semaine, je prononce son nom. Louis Garon, notre chef d'antenne. Mais on n'avait pas entendu sa voix. Ah. Alors, voici le grand Louis Garon.
Bonjour, Chantal. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
En fait... quand j'ai commencé à faire de la radio, je lui ai dit ne me ménage pas et je lui suis reconnaissante comme là, il disait là, t'as bafouillé, ça a pas bon.
vous êtes le Jean-Pierre Coallier que j'ai eu.
Ah? Ben, pas tant que ça. J'essaie d'aider les gens à s'améliorer, surtout atteindre leur plein potentiel parce que. Il faut avoir du plaisir à faire la radio et communiquer. Oui. Et pour vraiment avoir du plaisir, il faut être capable de se sentir à l'aise au micro, de ne pas chercher ses mots, de ne pas bafouiller et surtout se sentir en confiance.
Mais il faut surtout être, elle disait tout à l'heure, Chantal, elle disait, il faut être juste. Mm-hmm. Et j'avais un patron qui, au lieu de venir me prendre de front en disant « c'est pas ça qu'il faut que tu fasses », il avait toujours une phrase. Une phrase pour qui résumait le... Mm-hmm. Alors, si je faisais une faute de français, il ouvrait le studio, puis il faisait « à la langue française, vierge et martyr », puis il fermait la porte. ça voulait dire « fais plus ça ».« Fais plus ça ». Il avait une phrase qui résumait pas mal sa pensée, et on faisait toujours très attention à cause de ça. C'était bien le fun.
Ben, c'est surtout qu'aujourd'hui, il faut... je pense des techniques aussi... Mm-hmm. Pour les jeunes, pour les aider un peu à progresser, à vraiment changer, parce qu'il faut vraiment s'adapter à la mentalité ou à l'éducation que ces gens-là ont reçu. Et surtout, les mentalités ont beaucoup changé avec les années. On ne peut plus vraiment... la manière dure, comme à l'époque, où on faisait... Sans dire qu'on faisait peur aux gens, mais on était... où les gens arrivaient au micro puis qui étaient un peu plus craintifs et avaient peur de faire une erreur. Et souvent, peut-être que ça... ça assurait pour le patron de dire « Bon, ben elle a tellement peur de faire une erreur, elle a tellement peur que j'ouvre la porte pour lui dire ça, qu'elle va faire les efforts nécessaires pour pallier à son manque, par exemple, que ce soit au niveau de la langue française, au niveau de sa diction.
Hein? » Oh, il disait pire que ça, il disait « La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. » Non, mais tu disais, mais voyons, et finalement, dans le questionnement, c'est sûr, il le disait avec un sourire, il le disait pas pour détruire,
non.
Il disait pour qu'il y ait une réflexion, et la réflexion, et c'est ça que j'aimerais vous poser comme question, vous êtes pas de ma génération, puis j'aimerais ça vous poser cette question-là.
Allez-y.
Quelles seront les conséquences de cette permissivité-là excessive en ce moment?
Ben c'est une bonne question, Daniel. Ben nous on semble permissif, mais je crois aussi que il y a des standards également. Les jeunes, on regarde aujourd'hui, ils arrivent peut-être mieux préparés. Quelle époque, ont suivi des cours de journalisme, ont fréquenté l'université, ont fait des cours comme ProMédia par la suite pour travailler sur leur diction, sur la façon de s'exprimer également. Donc, je crois qu'ils arrivent mieux préparés. Et souvent, comme vous le disiez un peu plus tôt, vous êtes arrivé à la radio à 17 ans, vous n'aviez pas l'expérience, puis on vous dit « Ah, c'est pas grave, on va vous enseigner. »
Est-ce que tout le monde apprenait ensemble, d'une certaine manière?
Ben, c'est différent.
Oui,
c'est
qu'aujourd'hui, aujourd'hui,
c'est ça. C'était une profession d'autodidacte. Hein. Il y avait des gens qui allaient, qui avaient une certaine prédisposition. Il y avait un mentor qui était là pour leur dire comment. Mais souvent, cette personne-là, elle arrivait, puis souvent, à l'époque, on apprenait à la dure. Alors, on faisait, oui, un peu d'enseignement, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on est obligé d'enseigner, on est obligé d'accompagner également la personne, puis l'aider aussi. Mon but, moi, c'est de faire réaliser un peu les efforts que ça va prendre pour vraiment obtenir le résultat que cette personne-là, que la personne recherche. Alors, c'est surtout ça, c'est faire réaliser les efforts, également travailler également son sens de l'analyse, son sens de la concision. Parce que c'est important, parce que c'est un média, la média de la radio, n'importe quel média électronique, c'est le temps. Il faut également de mettre à l'intérieur d'un temps précis, donner le maximum d'informations, que ce soit le plus clair possible, de manière à ce que l'auditeur ou l'auditrice puisse bien comprendre ce que la personne veut dire ou s'y saisir.
Mais là,
que ce soit une information, que ce soit même une animation, par exemple, comme
t'avais le goût de réagir, Daniel.
Oui, mais c'est parce que là, il parle d'un sujet qui est très, très, très centré. La radio, la communication, c'est sûr. Les effets sont directs, c'est-à-dire que ça s'en va partout et puis ça peut revenir d'une façon assez particulière. Mais je pense à ceux qui, à un moment donné, vont dans n'importe quel travail aujourd'hui, n'importe quel bureau, n'importe quel... Et exigent qu'on les écoute et qu'on ne prenne que leurs idées. Il y en a beaucoup qui se disent, moi, ça me tente pas, regarde, il m'écoute.
Chez les plus jeunes, vous trouvez?
Oui, c'est ça. Il m'entend pas, il me respecte pas, puis ils changent, ils s'en vont ailleurs où ils font plus rien. Je trouve cet esprit défaitiste.
Ben, on peut le voir comme défaitiste, comme nous, par exemple, on fallait trimer dur, il fallait pas se décourager, c'est souvent ceux qui étaient les plus persévérants, les plus
qui finissait par faire
carrière dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et c'était pas évident. Moi-même, lorsque j'étudiais, on me disait, bon, ben écoutez, vous savez, c'est pas un métier facile, il y a beaucoup de compétition, pour les travaux, les jobs sont rares, fait que si vous en avez une, tenez-y mordicus, si vous devez faire du temps supplémentaire, on faisait du temps supplémentaire, puis on disait pas, par exemple, sur notre fiche de temps qu'on avait fait du temps supplémentaire, parce que le patron savait très bien que le patron allait dire, ben c'est pas normal que ça te prenne ce temps-là pour faire ce travail-là, parce que normalement, la tâche de travail qu'on te donne à faire, il faut qu'elle se fasse à l'intérieur du temps prévu. Alors, si tu le fais à l'extérieur du temps prévu, ben c'est parce que nécessairement, peut-être que t'as pas les capacités de le faire. C'est surtout ça que tu voulais pas prouver à ton patron. Il fallait que tu prouves à ton patron que tu étais capable de faire le maximum de travail à l'intérieur du temps requis. Aujourd'hui, les jeunes, ce qui a changé, c'est que je crois qu'ils voient les possibilités. Je crois que le pouvoir également, je crois que autant à l'époque, c'était le patron qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, le patron, le pouvoir est allé de l'autre côté. C'est maintenant l'employé a beaucoup plus de pouvoir que le patron pouvait à l'époque.
On leur doit tout, c'est ça que je
Ça peut un peu. Mais moi, pour avoir fréquenté ces jeunes-là, je crois qu'ils n'arrivent pas avec cette attitude-là de « vous me devez tout », mais ils vont se rendre compte rapidement si oui ou non, c'est pas fait pour eux.
C'est fait peut-être ou
non pour eux. Et s'ils sentent qu'ils sont pas heureux dans ce qu'ils font, il y en a beaucoup qui ont continué une carrière qui n'était pas nécessairement heureux, puis c'est pas nécessairement ça qu'ils voulaient faire, mais ils se disaient, bon, c'est un emploi qui est bien payé, qui a une certaine notoriété, je suis bien là-dedans, je peux bien gagner ma vie. Est-ce que je suis heureux? C'est pas l'essentiel d'être heureux dans mon travail, c'est de pouvoir éventuellement, peut-être à l'époque, subvenir aux besoins de ma famille, fonder une famille. Et c'était ça la priorité pour les jeunes aujourd'hui. Fonder une famille, c'est pas nécessairement leur priorité. Ils vont essayer.
Je suis papa, maman.
Non, mais c'est ça. Ils vont essayer différentes choses.
Donc, tu ne vois pas cette intransigeance-là.
Non, je ne vois pas ces gens-là qui arrivent. Puis, écoutez, moi, c'est comme ça que je veux faire mon travail. Si ça ne me plaît pas, je vais m'en aller. C'est pas des gens. Mais tu vois que des gens, si ce n'est pas quelque chose qui leur convient ou ils pensent qu'ils ne seront pas heureux ou qu'ils vont pouvoir s'épanouir ailleurs.
Ils ne savent jamais c'est quoi leur ailleurs.
Ah, mais
ils ne savent pas ce que c'est leur ailleurs.
Oui, mais il y en a que ça va prendre un peu plus de temps. C'est comme mais même
même à l'époque aussi.
Mais même à l'époque, il y en avait qui essayaient toutes sortes d'affaires. Bon, ils allaient faire un peu comme vous, ils allaient faire de la chanson, qui allaient faire un peu de comédie, qui allaient jouer au théâtre ou dans des cinémas ou dans des films ou dans des
j'aurais
romans.
J'aurais pu abandonner, par exemple. C'est dur.
Mais vous auriez pu. Il y en a beaucoup. Mais oui, c'est très dur, mais.
Je le fais quand même.
Mais c'est pas tout le monde qui peut faire. C'est pas tout le monde qui a la couenne assez dure pour faire carrière dans ce milieu-là.
Ah, bravo. Surtout, c'est ce que je voulais entendre.
C'est ça. Mais c'est vrai.
Daniel, elle voulait un compliment.
Mais dans le sens que. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça ne changera jamais, parce que la compétition est forte. Elle va toujours rester. C'est pas parce que les jeunes sont là, il n'y a pas de compétition. C'est que les jeunes se disent aujourd'hui, de la nouvelle génération, et j'ai un certain pouvoir maintenant. Alors pourquoi je n'exercerais pas ce pouvoir? Ce pouvoir-là qu'à l'époque, l'employé n'avait pas. Ou c'était toujours le patron. On voit souvent avec les climats toxiques, hein, qu'on parle beaucoup. Là, on commence...
C'était déséquilibré quand même.
On commence à parler des climats toxiques, par exemple, dans les boîtes, dans les salles de nouvelles, dans le milieu des médias, dans le milieu
Je peux vous en parler.
Et ça, il y en avait à l'époque. Et ça, c'est une bonne chose que les jeunes, aujourd'hui, ne tolèrent plus ce climat toxique. Alors moi, c'est pas vrai que je vais rester dans une salle des nouvelles puis que je vais me faire gueuler après, ou dans n'importe quel milieu, ou même dans un milieu, par exemple, comme le théâtre, ou dans le cinéma, ou dans le télérama, on va me dire, mais là, c'est le temps que vous perdiez. Je vais accepter une petite remarque désobligeante sur ma prise de poids, ou on se sent un peu plus vieille. Ah, ça, ce rôle-là, je crois que tu devrais plus.
Ce que je regrette, par contre, je suis d'accord avec vous, il y a des choses maintenant qui sont plus tolérables, mais c'est que tout est. On met tout dans la même boîte. Écoutez,
Comme quoi, par exemple?
Ça pourrait être, vous êtes arrivé avec des running shoes, puis le patron a dit, oh mon Dieu, tu devrais venir en... Moi, mon patron m'a dit de mettre de plus jamais mettre de running shoes. C'est devenu un free-for-all. Il n'y a plus personne. Aussitôt qu'ils peuvent râler et dire, moi, c'est moi... On le fait.
Ça, on le voit, mais c'est un peu partout dans la société.
Pas dans votre société.
On revendique davantage de droits. Bon, je vais vous donner un exemple qui est bien... bon, on sait que les joueurs de hockey, à l'époque, c'était... Bon, le veston-cravate, c'était la tenue obligatoire. Là, il y a des joueurs des Maple Leafs de Toronto, possiblement Austin Matthews, qui est le joueur le mieux payé, qui est la grande vedette, qui est allé voir l'organisation. Mais nous, le veston cravate, on est un peu tanné. On aimerait ça être plus décontracté, tout ça. Et l'organisation a dit, écoutez, si c'est ça qui l'important, c'est que vous performiez sur la glace, que vous gagniez les matchs de hockey. De quoi vous avez l'air? Ben, en autant que vous avez une tenue respectueuse, c'est vrai. Alors, ils ont acquiescé à ces demandes-là. Et là, on voit que ça, c'est la nouvelle génération. On dit, tu sais, à la limite, il y avait une expression en anglais, it's always the wheel that's squeaking that's got the oil. Vous comprenez? Où est-ce que les gens, c'est toujours la roue qui grince qui reçoit l'huile. Alors, eux autres sont pas fous, ils ont compris ça aussi également. C'est un peu comme ça quand vous avez été. On parle de l'enfant roi et tout ça. Ils ont demandé à leurs parents. À l'époque, nous, on ne demandait pas. On donnait ce que les parents nous donnaient, puis on disait merci, même si ce n'était pas nécessairement suffisant.
Je vais sur des réseaux le soir regarder aux États-Unis ce qui se passe. Je suis très inquiète de ce qui se passe aux États-Unis des fois, parce qu'on est à côté. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle les Karen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Au niveau du service à la clientèle qui revendique haut et fort.
N'importe quoi. C'est rendu tellement incroyable. La personne se promène sur la rue puis elle dit à son voisin, t'as pas le droit de marcher sur mon trottoir. C'est mon trottoir, c'est pas ton trottoir. Oh, la police les arrête. Ne me touchez pas, si vous me touchez, vous, je sais, my constitutional rights ou quelque chose, mon droit constitutionnel. Puis c'est rendu, tu peux plus rien faire et je vais vous poursuivre. C'est rendu les poursuites aussitôt que tu te fais toucher, tu te fais parler, agresser ou pas parler. Il y a des maudites limites. Il y a moyen de baisser le ton, il y a moyen de se parler. On ne se parle plus, on attaque aujourd'hui. Et je trouve ça dommage. Tu sais, il y a moyen, c'est vrai que tu as le droit d'avoir ton opinion, c'est vrai que tu as le droit d'exiger, mais arrête de me... C'est une agression perpétuelle. On me dit des affaires monstrueuses parfois. Puis tu vois,
mais moi, je pense que les gens qui vont sur les réseaux sociaux puis qui témoignent de ces micro-agressions, comme on les appelle, mais ils vont sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il n'y a personne qui les force à aller sur les réseaux sociaux. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a personne qui est obligé d'aller sur les réseaux sociaux pour subir ou pour témoigner de ces micro-agressions constantes. Mais pour en revenir sur...
Ouais, mais par exemple, l'effet de boule de neige, ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui le fait, puis tout d'un coup, tu en as 15 qui suivent. Ouais.
Mais je crois que ça a toujours existé. Maintenant, ces gens-là ont une tribune pour le faire.
C'est ça un peu la question. C'est que là, maintenant, ayant la tribune des réseaux sociaux, n'importe qui s'installe derrière dans sa voiture, fait une vidéo, puis le feu prend aux poudres, alors qu'avant, et ça s'était trié, toutes ces manifestations-là.
Mais parlez-vous! Parlez-vous! Sors du char, c'est pas une agression, je veux te parler! Je trouve ça incroyable.
Mais moi, je crois que si on revient, par exemple, au sujet avec la nouvelle génération qui rentre en poste, je crois pas je sens pas ces jeunes-là, des Karen ou des gens qui sont un peu, qui sont dans la revendication constante. Je vois plutôt des gens qui se disent... Ben, si ça fait pas ici, ça fera ailleurs. Puis si c'est pas ce métier-là, ben, je vais essayer d'autres choses parce que j'en ai la possibilité. Puis aussi, il faut dire que oui, il y a les jeunes, mais il y a également les réseaux qui sont aussi pas coupables, mais qui ont leur part de responsabilité là-dedans parce que les médias vivent une crise en ce moment. On essaie de renouveler.
Comment on va
renouveler notre auditoire?
C'est très vrai.
Parce qu'il y a une partie de l'auditoire qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Par exemple, les 18-35 qui sont très durs parce qu'eux sont un peu partout. Alors, comment on fait pour aller les rejoindre? Comment on fait pour les atteindre? Quels produits ils consomment? Et souvent, c'est ça, c'est qu'on essaie de faire des produits sur mesure pour eux et ce n'est pas nécessairement la bonne solution à faire. La bonne solution à adopter parce que ça tendance l'autre clientèle qui dit ben, « Pourquoi moi, je serais obligé pourquoi moi on fait pas un produit qui est pour
moi? »
On a l'impression que
la télévision.
On a l'impression qu'on essaie de faire des produits sur mesure, que ce soit radiophonique, que ce soit à la télé et tout ça. On essaie constamment. Et ces gens-là, ils savent qu'ils sont courtisés. Alors, vous savez, comme quelqu'un qui est courtisé, il va attendre la meilleure offre, c'est tout à fait normal, puis qu'il sait très bien qu'il est désiré. C'est ça aussi. Puis les médias, ils s'en cachent pas. Les grandes Radio-Canada de ce monde, les TVA, les nouveaux, ils veulent avoir un produit. Comment on peut avoir un produit, mettre un produit en onde qui va attirer cette clientèle-là pour assurer la pérennité de leur entreprise?
C'est très important. Je vous propose de faire un petit pont musical le temps qu'on se parle puis qu'on...
qu'on se parle.
La jeunesse est vieille comme le monde. Chanson de circonstance de Jérôme Minière et on poursuit notre entretien.
La jeunesse est vieille comme le monde. Assis sur le sable, on voit d'autres vagues. On repense à la nôtre, qui n'a laissé que des débris, des tatouages, des photographies. On se dit qu'elle est passée si vite, alors que pas du tout. La jeunesse est un chemin qui n'en finit pas. La jeunesse est vieille comme le monde. 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 D'être vraiment la jeunesse, mais nous ne portons qu'un corps publicitaire à l'effigie de cette princesse, vieille chose impitoyable. Tu n'acceptes pas de vieillir avec les corps que tu as touchés. Après toutes ces années, tu as tellement peur de ta beauté en âge, tu préfères une vie de dandy, sucrée et légère, et toujours de nouvelles conquêtes. La jeunesse est vieille comme le monde. 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 Que l'on habite à Orléans ou à Hong Kong. La jeunesse est vieille comme le monde. Que l'on habite à Orléans ou à Hong Kong. La jeunesse est vieille comme le monde. Comme le monde. La jeunesse est vieille comme le monde. La jeunesse est vieille comme le monde. La jeunesse est vieille comme le monde. Comme le monde. La jeunesse est vieille comme le monde.
La jeunesse est vieille comme le monde. Jérôme Minière. En terminant, parce qu'on a des invités fort jasants en studio, dernière question à vous demander à chacun. Est-ce qu'on valorise assez l'expérience des plus âgés? Une minute chaque.
Ben, les femmes en premier, hein, la galanterie.
Quelle galanterie!
J'ai le constat qu'on va venir me demander effectivement comment ça se passe, Daniel, etc., etc. Je pourrais vous donner un exemple là-dessus. Un jeune homme qui est français, qui est arrivé au pays, qui m'a dit « je veux faire ce métier-là », puis il est beau comme un cœur, puis je lui dis « bon ». Sauf que je l'ai envoyé à des auditions. « Ah, ben, je peux pas y aller aujourd'hui parce que ça me tente pas. Demain, j'ai dormi trop tard, etc., etc. » Oui, mais c'est parce que là, tu peux aller faire ça. C'est sûr qu'on te paye pas, mais tu vas apprendre ce que c'est qu'une caméra, etc. Ah non, mais c'est parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Ben oui, je le sais, mais c'est parce que si tu t'en vas dans ce métier-là, puis tu sais pas comment faire. Alors finalement, ils m'écoutent. Ah, ça, ils m'écoutent. Hey, Daniel, elle doit le savoir. Sauf qu'ils feront pas. Ils feront pas ce que je vais leur dire. Ils ne le font pas. Ils s'adaptent à une espèce de leur monde, leur réalité. Et si ça débloque pas, ben ils t'en disent quasiment que t'es responsable.
Donc, si on vous approche, là, des gens qui ont du cœur au ventre, là, vous allez être une bonne mentor.
Je le fais régulièrement. Il y en a qui sont fantastiques. Mm-hmm. Je veux pas dire parce qu'ils m'ont écouté qu'ils sont fantastiques. Non, mais qui ont effectivement du cœur au ventre et qui ils savent que ce ne sera pas facile et qu'ils le font. Mais c'est de plus en plus rare, malheureusement.
Ben, on va demander la même chose à Louis.
Ben moi, je pense que l'expérience, oui, c'est très important. Puis je sens qu'une certaine... Les jeunes sont réceptifs à tout ça, mais c'est la façon de dire également, c'est un bon... C'est, lorsqu'on a une expérience, lorsqu'on a acquis bon, un certain bagage à la suite d'une carrière, on n'est pas nécessairement à la fin de sa carrière, mais on atteint quand même un certain plateau... c'est bien le mentorat également. Je pense que si on est capable de bien de faire réaliser à ces jeunes-là, parce qu'on a tous eu besoin de mentorat ou d'un mentor un jour ou l'autre pour vraiment nous faire avancer dans notre carrière ou à tout de moins nous partir, hein, avoir un tuteur qui va être capable de nous faire grandir droit. Et ça, je crois que ce soit n'importe quelle génération, on en est conscient qu'on a besoin de quelqu'un pour nous guider. Moi, peut-être à l'époque, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me guide un peu plus. J'aurais peut-être pris des décisions différentes. Mais moi, j'essaie de combler ça. Je crois qu'il y aura toujours une demande chez ces jeunes-là pouvoir également les aider à pousser dans la bonne direction, puis surtout les aider à progresser dans leur carrière.
S'ils écoutent.
Oui, mais il faut avoir également leur attention, puis il faut leur faire comprendre l'importance de ce que l'on dit et l'impact que ça peut avoir sur leur avenir.
Vous avez compris, mademoiselle?
Oui, merci. Alors, j'ai envie de remercier Daniel pour sa participation
et
active
merci pour
avec
cette
nous.
Journée. Merci cette journée, cette heure en onde qui m'ont fait regretter le passé et adorer ce que j'ai vécu aujourd'hui.
Ben, à l'automne, vous lancez un nouveau livre, donc peut-être qu'on vous réinvitera.
Ah, ben, ce sera avec grand plaisir. Ouais.
Merci de mon tuteur à tomates, Louis Garon, qui m'aide à pousser bien droit et que j'écoute religieusement, je l'espère. Merci à Maurice Bolduc en régie qui est à côté de nous. Un grand homme et Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, on parle avec une gentille jeune fille, Élodie, 13 ans, et ça va être intéressant. À bientôt tout le monde. Bonne semaine.